Atelier, la biodiversité, c'est la vie, avec Gilles Boeuf, scientifique.
Qui ont repris le système en main, nous sommes des pauvres malheureux, c'est nous qui sommes. Ça va pas du tout. Hein. Cette misogynie globale des systèmes, allez voir les transhumanistes, que des mecs. Allez voir les créationnistes, une misogynie incroyable. Les réenchanteurs du risque sont que des choses de mal, ça encore. C'est pourquoi ? Parce que l'humanité a deux défauts terribles qu'il faut qu'on gomme : l'arrogance. Et l'arrogance, elle est surtout masculine, de très loin. Et la seconde, c'est la cupidité. Là, malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Donc voilà, le débat est lancé. Vous voyez qu'on passe rapidement de la science très fondamentale, de la physique ou des mathématiques, à la philosophie. Et c'est cette transversalité-là qu'il nous faut pour qu'on puisse non seulement faire un état correct de ce qu'on vit aujourd'hui, mais surtout, ce qu'il nous faut, proposer des solutions pour demain. Et moi, je ne suis pas pour la décroissance, ça n'a pas de sens pour moi, ni pour revenir à des trucs... Non, on est dans un système aujourd'hui où l'humain a sa présence, l'humain avec 7,6 milliards d'humains, ça on va en parler, ça sera le débat dans le monde mardi prochain, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est parce qu'on est trop nombreux qu'on a des soucis, c'est des vraies questions qu'on se pose. Les démographes ont beaucoup réagi à l'appel du monde, en disant, mais nous, les biologistes déraillent, les physiciens aussi, parce que ce n'est pas un problème de démographie. Un petit peu quand même. Maintenant, il n'y a aucune relation entre le fait que vous soyez nombreux dans un endroit et malheureux, ce n'est pas vrai. Vous pouvez très bien être nombreux et heureux, et vous pouvez très bien être peu nombreux et malheureux. Donc ce n'est pas une relation immédiate. Mais globalement, si on était moins nombreux, ça pourrait peut-être se passer un petit peu mieux. Et surtout, je reviens à la démographie dont je vous parlais, c'est que ces femmes qui sont instrumentées pour avoir autant de bébés, ne tournent pas le système. Aujourd'hui, en démographie, la plus grosse crise que l'on vit, c'est sur la satire intertropicale en Afrique. Donc, on prend les deux tropiques africains. Hein. C'est là que demain va exploser la population. Ce n'est pas en Asie. Hein, ça commence à se freiner en Inde. Maintenant, en Inde, on n'est même pas à 3. Hein. Ça a bien fini. En Chine aussi, ça continue. Le Niger, je vous parle du Niger, le Nigeria, 200 millions d'habitants, 400 millions dans 50 ans. En Égypte, 100 millions. En Congo, 100 millions. En Éthiopie, 100 millions. Donc, vous voyez que... Par contre, les démographes sont trompés. On avait dit en Iran, on avait dit 200 millions. Aujourd'hui, non, ils sont à 80, 90. Donc, vous voyez que c'est ça qu'il faut prendre en considération aussi. Et tout se passe encore une fois. Je reviens par l'éducation des jeunes filles. C'est vraiment très important pour ces questions-là. Donc, quelques images pour démarrer. Je prends les deux écosystèmes de la Terre les plus riches en nombre d'espèces. Dans l'océan, c'est ça. Là, je vous emmène dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Là, on peut trouver 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré de récif. C'est intéressant le récif parce que c'est moins de 1% de la surface de la Terre et c'est plus du tiers des espèces de l'océan. Vous voyez l'importance du récif. Or, le récif à plus de degrés, on va le perdre. On va le perdre, c'est trop de degrés. Le récif, il aime l'eau chaude, mais pas trop. Il est très sténotherme. Hein, 26, 29, 30, c'est trop. La mer remonte très vite et si elle remonte plus vite que la capacité du récif à grandir, ben, elle n'aura plus la transparence de l'eau au-dessus pour fonctionner. L'océan s'acidifie. Et ça, il a horreur de ça, le corail. Et puis, bien sûr, on continue à le détruire, à faire des hôtels de luxe dessus, à pêcher la dynamite au cyanure. Des millions de personnes vivent du corail aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème très important, le corail. L'équivalent du corail sur Terre, c'est ça. Ce sont les forêts tropicales humides. Il y a 3 grands gisements hein, au muséum. On travaille beaucoup là-dessus. Vous avez le bassin du Congo, l'Amazonie en Amérique, et vous avez les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo. Là, dans les collections à Paris du Muséum, plus de la moitié de tout ce qui vit vient de ces milieux-là. Vous voyez la richesse en papillons, en fourmis, en tout ce que vous voulez. Hein. C'est la forêt tropicale humide. Elle part aujourd'hui au rythme d'à peu près la surface de l'Angleterre par an, enlevée, arrachée. Soit pour détruire la forêt, soit pour faire l'agriculture, soit pour faire effet de la culture comme l'huile de palme, par exemple. 23 millions d'hectares partis en Indonésie sur 4 ans. Vous voyez que on va toujours au problème de la relation. Qu'est-ce qu'a fait l'humain dans tout ça? Il a tué l'harmonie, en fait. Robert Barbeau avait écrit un très beau livre en 2006, Un éléphant dans un jeu de quilles. Alors, vous voyez, qui est l'éléphant et qui est le jeu de quilles? C'est ça. On est, en fait, comme un gros patapouf dans un magasin de porcelaine. Je ne dis pas que tout est voulu, n'empêche que ça finit par faire ça. On verra quelles sont les grandes causes aujourd'hui du départ du vivant. Eh bien, là, sur des forêts comme ça, 50 000 espèces au kilomètre carré. Les arbres, on aime tous les arbres. Les arbres, c'est fabuleux. On n'a pas fait le tour, mais bon, on connaît quand même bien les arbres de la planète. Hein. 250 espèces d'arbres en Europe. Là, vous connaissez toutes les espèces d'arbres que vous avez autour de vous. 250 pour toute l'Europe. Un carré de 1 km en Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Donc, vous voyez qu'il y a des zones du monde qu'on appelle hotspots. C'est des zones de très grande richesse en nombre d'espèces. Et la France a quelques hotspots. Tout le pourtour méditerranéen est un hotspot. Et puis nos territoires outre-mer, hein. La Guyane. Beaucoup plus d'espèces en Guyane qu'en France, évidemment, métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces, mais ça ne vit que là et pas ailleurs. Hein. Ça, on s'en est rendu compte à Madagascar. C'est un territoire géologique un peu particulier. Donc la vie qui est là est tout à fait différente de ce qu'il y a ailleurs. Et on est en train de perdre tout ça. Tous les milieux coralliens que la France a plus de 10% de la surface du corail de la planète. Nous sommes responsables de cela aussi, en Polynésie par exemple, hein. Aux Antilles un petit peu aussi. Le corail est très abîmé aux Antilles. On estime qu'en Martinique, il nous reste 1% du corail initial. 1%. Et là, on est en France, hein, on n'est pas dans des pays où on va accuser des populations qui ne sont pas nous. Non, non, ça c'est nous, hein, qui avons détruit tout cela. Alors maintenant, les écosystèmes actuels, c'est ça. Voilà. Shanghai, il y a quelque temps, et bien à Shanghai, vous avez la moitié des Français, tout simplement. Dans la même ville. La moitié des Français. Alors, est-ce que c'est sustainable? Est-ce que tout ça, c'est soutenable? C'est la question qu'on pose. Hein. Durable, j'aime pas le mot soutenable, oui, ça me plaît assez bien. Et là, je vous mets la courbe du GIEC qui vous montre la température depuis 140 ans qui ne fait qu'augmenter, température de la surface de l'océan et température de l'air, bien évidemment. Et ça, c'est une très belle image, prise par la NASA en 2015, le 20 octobre 2015, d'un lever de terre prise de la Lune. Là, vous la voyez. J'étais, il y a quelques semaines, j'étais à Toulouse avec Thomas Pesquet pour le congrès mondial des astronautes. C'est très émouvant. Il reste 500 humains qui sont allés en orbite terrestre à 300 km et qui ont vu tous, à travers une petite fenêtre, la totalité de la Terre. Et tous ont pleuré. Puis les mecs, ce n'est pas des poètes, hein, parce que c'était les anciens types de l'armée soviétique ou des Américains entraînés sur des pilotes de chasse ou d'essai, tous. Il y a 10% de femmes, hein, dans les astronautes. 10%, une sur 10. Tous y pleurent. Il y a un syndrome que les psychanalystes ont étudié d'ailleurs sur le syndrome de l'astronaute qui voit cette Terre. Qui en pleure tellement elle est belle et tellement elle semble fragile. Et Pesquet a beaucoup relayé le message en disant, OK, mais si on s'en occupe un peu mieux, demain elle risque effectivement de plus être comme ça. Donc pour nous, ce sont de beaux relais, bien sûr, de communication. Ces gens-là ont un prestige mérité, donc quand ils en parlent, c'est important. Même chose avec les sportifs de très haut niveau. Hein. J'étais avec Kevin Mayer il y a quelque temps, hein, ce type qui a gagné une médaille d'or aux championnats du monde en décathlon. Le meilleur sportif il est français. Hein. Et Mayer nous dit, vous savez, si demain, je n'ai que de l'eau souillée à consommer ou de l'air pollué, je ne ferai plus mes performances. L'humain a profondément besoin d'une nature en harmonie, et c'est ce qu'on casse en permanence. Alors, tout ceci est lié. C'est ça qui est compliqué au niveau à expliquer, bien sûr, surtout à vous, lycéens. On a un problème de système éducatif en France, il ne marche pas, ça c'est clair, je le dis souvent, on est beaucoup trop en silo. Si le prof de physique ne parle pas à la prof de maths, qui ne parle pas au prof d'histoire géo, ni au prof d'anglais, ça ne marche pas. Tout est lié. Regardez les problèmes que l'on a, problème d'énergie. Très important. Il faut qu'on règle la question de l'énergie, qu'on arrête la carbonation. Comment arrêter le pétrole et le charbon? Un des grands problèmes de l'humanité, ça a été le jour où James Watt invente la première locomotive. On est un petit peu avant la Révolution française. Et du jour au lendemain, il nous faut du pétrole et du charbon. Et une grande partie des soucis qu'on a aujourd'hui sont liés au pétrole et au charbon. On passe du cheval animal au cheval vapeur. Tout modifié. L'eau, ben l'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts d'eau. Dans la salle, on a un peu grandi depuis qu'on a un bébé. Alors, les filles ont un peu moins d'eau que les garçons, c'est comme ça. Elles ont plus de masse de lipides. Ça fait les rondeurs dont les mâles raffolent, je ne sais pas. En tout cas, il y a moins d'eau dans un corps de fille que dans un corps de garçon. Et plus on vieillit, plus on perd de l'eau. Mais quand même, on finit quand même, une femme qui meurt à 100 ans, elle a 58%, un garçon 62. Vous voyez que l'eau est fondamentale. L'eau, elle n'est pas faite pour laver sa bagnole. L'eau, c'est la molécule clé de la vie. Avant l'ADN, c'est l'eau, la molécule du vivant. Il n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre, hein, donc distance par rapport au Soleil. De l'eau en forme de glace, il y en a plein dans l'univers. Et la pellicule d'eau, elle est toute petite sur la Terre. C'est toute petite fraction. Même si l'océan est profond, hein, c'est petit. Donc cette eau, elle est fondamentale. L'eau, l'énergie, la biodiversité, on va en parler. Le climat, on va en parler un petit peu aussi. Que le climat ait changé, c'est très bien. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il change trop vite en ce moment. C'est ça le problème. La pollution, c'est le drame de l'humanité. Vous vous rendez compte qu'avant que l'humain n'apparaisse sur la Terre, il n'y avait pas. Il y avait des petites pollutions avec du bitume qui arrivait en surface, des grandes éruptions volcaniques, bien évidemment aussi, mais pas de déchets. Dans la nature, chaque déchet qui est produit a un acheteur. Une vache qui a sa bouse, l'escarabée qui se régale dans la bouse de la vache, et toute une séquence d'animaux qui vont aller jusqu'à la fin de l'utilisation de la bouse entièrement desséchée. Nous, On a inventé 50 000 molécules qui nous polluent tous les jours. On en a plein les cheveux aussi. On est tous contaminés ici. Regardez l'histoire du glyphosate cette semaine avec ces pesticides, dont on peut parfaitement se passer, mais qui remplissent les poches de certains. Donc vous voyez que la pollution, elle apparaît avec Rome. Hein. Quand on trouve dans les glaces de l'Antarctique aujourd'hui, quand on fait des carottes, on trouve les traces des mines de plomb des Romains. On lit la première exploitation de métaux lourds par Rome. C'est très clair. On les lit très bien. On lit bien sûr les explosions nucléaires, aussi les essais nucléaires dans le Pacifique, ou ceux des Américains, dans le désert du Nevada aussi. Hein. Donc l'humain a marqué cette planète. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ce matin ? Ce sont les interactions entre humain et nature. Voilà. Et je repars sur un papier de Paul Ehrlich, qu'on aime beaucoup. Il doit avoir 90 ans, Ehrlich. Et Ehrlich s'était rendu célèbre par un papier en 61, où il disait... Il parlait de la bombe P. Alors ça a effrayé tout le monde. Il parlait de la démographie. On va trop vite, on fait trop de bébés. On était en pleine explosion démographique. Je vous rappelle, Hiroshima, 45, on est un peu plus de 2 milliards d'humains. Un peu plus que 2. Là, on est en train d'atteindre 8. On est entre tripler et quadrupler la population humaine sur 70 ans. Question qui est intéressante quand on parle de démographie, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ehrlich ? Il est reçu par l'Académie des sciences royales britanniques en 2013. Et il fait une conférence, comme on fait toujours dans ces cas-là, c'est comme une conférence au Collège de France. On appelle ça la conférence inaugurale. On est intronisé par des pairs, une grande conférence qu'on retrouve sur les radios partout, sur les télés. Il nous dit, voilà, « Can a collapse of global civilization be avoided ?» Est-ce qu'on peut encore interdire, interrompre un effondrement de nos civilisations. Voilà, c'est la question qui est posée ensemble ce matin. Et ça rebondit sur le travail de Jared Diamond en 2006, quand il écrit « Collapse ». Collapse en français, ça c'est effondrement. Où il dit en fait, les civilisations elles-mêmes sont responsables de leur propre chute ou pas. Est-ce qu'ils savent le prévoir et le gérer ? On verra très bien des exemples, on a su le faire. D'autres, on n'a pas su. L'Empire romain, les Vikings au Groenland, c'est une très belle histoire à raconter. Sans le savoir, ils ont tout fait pour disparaître en fait. N'ayez pas envie, hein, ça s'est passé. L'île de Pâques aussi est un très joli exemple. Hein. Donc le débat est lancé, et je vous ai mis le seul écosystème où il n'y a aucune vie, c'est une lave de volcan, 1800 degrés, il n'y a rien. Mais dès que ça refroidit, hop, quelques semaines après, le vivant se développe sur les laves fraîchement refroidies, des fougères, un tas de choses. Des bactéries, nous sommes une planète bactéries, des micro-algues marines, et ça c'est mon chouchou, c'est un tardigrade, c'est un petit animal arthropode qui fait entre un demi-millimètre et un millimètre et demi, qui est génial, il sait tout faire. On a séquencé son génome récemment, on a regardé ce qu'il fait. Le tardigrade, quand on l'embête, comment il réagit ? D'abord, il peut se déshydrater, ce que ça va faire les espèces. Hein. Prenez un humain qui monte autour de France, hein, c'est là qu'on perd le plus de flotte. 14 litres d'eau dans une journée perdue par un corps du tour dans l'école des Pyrénées ou des Alpes. Et pourtant, les types, ils sont fins comme ça. Hein. Un corps du tour, il ne démarre pas le tour à 80 kilos, il est largement en dessous. Eux, ils peuvent perdre les 9 dixièmes de leur flotte. Bien sûr, ils changent un peu, ils perdent leur tête, s'en va. Ils perdent leurs pattes, ils ont 8 pattes, puis ils attendent. 100 ans, 200 ans, 300 ans, on attend. Puis le jour où ça revient bien, en température, il peut descendre dans le zéro absolu. On l'a mis dans de l'hélium liquide, c'est quelques degrés Kelvin, donc c'est moins 269 degrés. Il tient. Donc on a même imaginé un moment qu'il pouvait tenir dans les vides intersidérales. En température élevée, il peut monter à 80 degrés. Prenez votre bain. Non, ne le faites pas parce que je serai responsable. Ce soir, on verra à 80 degrés ce qui va rester. Donc, il est incroyablement résistant, mais il est petit. Alors là, ça va réalimenter les fantasmes de certains humains qui veulent. Eh bien, ce n'est pas grave. On va piquer les gènes du tardigrade pour les mettre chez les humains. D'abord, je ne sais pas quelle femme a envie de coller des gènes tardigrades à son bébé. Déjà, moi, je ne sais pas. Il n'y en aura pas beaucoup. Puis, ça ne marchera pas. Comme j'ai dit au type, en fait, commencez par me déshydrater. Un chat ne marchera pas. Vous verrez la tronche du chat déshydratée. Donc arrêtons de parler, d'imaginer, le tardigrade, il est comme ça, il est tout petit, c'est sympa. Alors, tout ça a démarré sur de la physique et du monde minéral. 12 milliards d'années, nous dit Hubert Reeves, les Big Bang originaux. Puis là, vous avez tous de la chimie, vous n'aimez pas forcément ça, le tableau de Mendeleïev, on l'apprend tous, hein, que je trouve génial. Moi, tout petit, j'adorais le tableau de Mendeleïev à 20 ans, j'ai regardé ça point par point, pourquoi celui-là était là et celui-là était là. Et le tableau de Mendeleïev nous raconte que l'histoire, c'est d'abord l'hydrogène. Plus des trois quarts de l'univers actuel est fait d'hydrogène. Plus des trois quarts. Un, c'est l'élément 1, vous l'avez appris, hein, 1. Et puis après, vous avez les éléments lourds qui vont apparaître. Et c'est là que vont apparaître deux éléments qui m'ont beaucoup intéressé dans ma vie de chercheur, sodium et potassium. C'est quoi ? C'est l'eau de mer. L'eau de mer, c'est du chlorure de sodium et de potassium. Sodium, chlorure, potassium et chlorure, les trois éléments. Et c'est intéressant parce que la vie terrestre va se développer dans l'eau salée, dans l'eau de mer au démarrage. Alors, je vous ai mis une image ici du lagon calédonien, et je vous ai mis cette image-là. Si vous allez à Paris, dans les mois qui viennent, jusqu'au mois de juin prochain, allez voir l'exposition au Muséum au Jardin des Plantes qui s'appelle Météorite. C'est quoi une météorite? C'est un fragment physique solide d'univers qui est tombé sur la Terre, du système solaire. Hein. Ils n'arrivent pas d'ailleurs, ils viennent du système solaire. On a des fragments de Mars, on a des fragments de satellites de Jupiter ou de Saturne, on a plein de choses. Et celle-là, elle tombe dans un champ, pas très loin d'ici, sud de Toulouse. On est au mois de mai 1864. J'ai retrouvé les journaux d'époque, hein, c'est superbe. Et qu'est-ce que racontent ces journaux? Cette nuit-là, Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles. Des milliers de fragments tombent dans des champs du Gers. Un petit village s'appelle Orgueil. Et montrer la relation entre l'humain et la nature, il y a un paysan qui est là dans son champ, et ramasse un fragment. Le plus gros fait 11 kilos. On l'a dans les collections, il est exposé en ce moment à la collection météorite. Pourquoi elle est géniale, cette météorite-là? Parce qu'elle raconte une histoire. Et c'est le rôle de la recherche, finalement. Qu'est-ce que raconte c'est moche comme tout, ce truc, ça ressemble à rien. Hein. Pas très beau, une météorite, par rapport à un beau cristal de quartz ou autre chose. Mais c'est génial quand vous connaissez son histoire. Donc il tombe dans un champ, un paysan le ramasse. Il se brûle doublement. Il se brûle parce que la surface de la météorite, quand elle est rentrée dans l'atmosphère, à cause de l'oxygène, va se porter à incandescence. C'est l'étoile filante. Et quand vous la cassez après en deux, si vous touchez le centre, bah, elle est à la température de l'univers, donc c'est-à-dire du vide intersidéral, elle est à moins, bah, presque proche, c'est le zéro absolu de l'univers. On se brûle horriblement par la chaleur et après horriblement par le froid sur le même objet. Il va se refroidir, il la ramasse et il la met dans une caisse à oignons dans son jardin. Et on l'oublie pendant 150 ans. En 2005, des grands donneurs qui passent par là disent au paysan actuel, qui doit être l'arrière-petit-fils, celui qui l'a ramassé, dit, vous savez, votre caillou, ce n'est pas un caillou banal, c'est une météorite. Il dit, oui, parce que l'arrière-grand-père l'avait ramassé. Et ce caillou va arriver dans les collections du muséum, rue Buffon à Paris, où on a là les plus puissants engins de géochimie qui existent, hein, des nanosondes. Et là, on va dater ce caillou grâce aux isotopes du chrome. Ah, quand vous connaissez le résultat, vous caressez le caillou un peu différemment. Ça change vos relations au caillou. Ce caillou a 4,6 milliards d'années. Il est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. Donc il est antérieur à la sortie de la Lune de la Terre. Il est là, dans une boîte, vous le regardez. Il raconte l'histoire de tout ça. Donc, ensuite, ce caillou, bien sûr, qui raconte une histoire. Ça, c'est la composition de l'océan. C'est la même depuis 100 millions d'années. L'océan n'a pas changé. L'océan a trois caractéristiques. Il est stable depuis très longtemps. Beaucoup plus stable que les rivières ou que l'air. Il est salé, vous savez. Hein, vous allez vous nager ici, pas loin de Bordeaux, bah, c'est salé. Et puis, il est en connectivité. Alors, arrêtons de parler des océans, c'est stupide. Il y a un océan global, c'est le même partout. Il est en connectivité. Si ce n'était pas le même, il ne jouerait pas ce rôle sur le climat. Un océan des mers, oui, la mer Méditerranée n'est pas la mer Baltique, qui n'est pas la mer Noire, je suis d'accord avec vous, mais un océan. Ça, c'est comme ça depuis 100 millions d'années. C'est très, très stable. Ça, c'est un estuaire. Ça, c'est intéressant. Vous en avez un très beau ici. La Gironde, le plus grand d'Europe. Et là, amusez-vous à vous promener dans la Gironde et vous goûtez l'eau au fur et à mesure. Une petite goutte, parce que ce n'est pas toujours très propre. Hein. Donc, une petite langue dessus. Donc, en amont de Bordeaux, et puis vous allez vers le bec d'Ambès, vous allez vers la Sorbie, jusqu'au phare de Cordouan. L'eau est de plus en plus salée. Et ça joue beaucoup avec les phénomènes de marée, bien sûr. Hein. Ça, c'est génial. Je vais vous dire pourquoi. Là, c'est pris à Madagascar, cette photo. Regardez ce que je vous ai mis ici. C'est quoi ça? Ça, c'est votre sang en ce moment. C'est le mien aussi, je ne suis pas extraterrestre. Hein. Notre sang. Pourquoi, s'il y a des médecins dans la salle, pourquoi un sang humain a 140 millimoles de sodium? C'est intéressant, ça. Hein. 3-4 millimoles de potassium, 105 millimoles de chlorure. Toujours, tout le temps, partout. Qu'on soit jaune, noir à point bleu, grand, petit, chevelu ou pas, garçon ou fille, on a la même composition. Le sang humain est extrêmement stable depuis très longtemps. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est l'eau de l'estuaire, tout simplement. Qu'est-ce que raconte le sang humain? La sortie de l'océan, il y a à peu près 450 millions d'années, la vie, forcément qu'elle est passée de l'océan, là où elle apparaît, au continent, en passant par le littoral, en passant par les estuaires. Et on pense que la vie a été plus capable au début de passer de l'eau de mer à la vie terrestre que de l'eau de mer à la vie d'eau douce. Ça s'est passé un peu plus tard. C'est compliqué d'aller en rivière parce que c'est très déminéralisé, en fait. La vie a marché, il y a plein d'espèces d'eau douce aujourd'hui, bien sûr. Donc, nous sommes dans le même système, la même composition que l'océan dilué par trois, la même histoire, l'eau aussi importante. On n'est pas un truc incroyable inventé à part du système terrestre, bien sûr. Alors ça, c'est intéressant, c'est le plus ancien fossile qu'on a à Paris dans nos collections. Ce sont des cyanobactéries, 3,45 milliards d'années, et les mêmes que j'aurais très bien pu ramasser ce matin, devant ici, Lisbonne, en arrivant à Bordeaux, dans une flaque d'eau, elles sont toujours là. ce sont les premiers êtres vivants qui vont apparaître et ensuite aller sur les continents. Alors, la biodiversité, souvent, on me dit, c'est quoi? Les gens croient que c'est ça. Alors, quand je suis avec ma ministre, hein, j'ai passé 2 ans aussi avec Ségolène Royal, comme conseiller scientifique, voilà, je montre ça, 25 chercheurs, sur le sable de Guadeloupe, mais on est 3 mètres sous les fesses des baigneurs et des baigneuses, à gratter dans le sable. Et on sort ça. Alors, on me dit, ah, qu'est-ce que c'est beau, vous avez raison, il faut sauver la biodiversité. Regardez, effectivement, comme c'est beau, celui-là, il est magnifique. Mais ce n'est pas toujours comme ça, c'est ça aussi, la biodiversité. Là, ça change tout. On dit, attendez, on n'a pas trop de sous. Vous voulez sauver celui-là, mais vous ne voulez quand même pas sauver ce truc, le poisson de bulle. Hein. Ou celui-là, le rat taupe nu. Il est génial, le rat taupe nu. 2005, j'étais dans mon bureau à Paris, et il y a un collègue, un des grands cancérologues français, qui m'appelle de la pitié, et me dit, Gilles, est-ce que tu connais le rat taupe nu? Bah oui, je sais que ça existe, c'est un rongeur qui vit dans des terriers au Kenya. Il me dit, est-ce que tu sais l'élever? Jamais essayé, mais au muséum, on veut bien essayer, on est prêt à tout, hein, on veut bien élever les rats taupe nu. Eh bien, vous avez aujourd'hui à Orléans, en France, un laboratoire spécial dédié à l'élevage du rat taupe nu. Pourquoi? Parce qu'il vit 50 ans. Alors qu'un rongeur, ça vit 2-3 ans. Hein. Et il ne fait jamais de cancer. Comprenons pourquoi le rat taupe nu ne fait jamais de cancer. Il devient une star de la recherche. Moche comme il était foutu, a priori. Hein. Si on sauve que les jolis. Alors, si ce n'est pas effectivement les beaux ou les laids, voilà, c'est ça la diversité. Voilà. Sachant notre image. Qu'est-ce que vous avez mangé depuis tout petit? Et un Français, s'il n'a pas son pain, son pinard et son fromage, il n'existe pas. Hein. Ce garçon et fille, c'est pareil. Là. Vous voyez que c'est ça la biodiversité. Les levures, les bactéries, les acariens. Si j'enlève ici le nickel des couverts et le verre des bouteilles, ce n'est que de la vie. Vous ne mangez que du biologique. Vous ne mangez pas des vélos. Hein. Et vous ne coopérez qu'avec du biologique. Ça, c'est essentiel et fondamental. Il est partout ce biologique. Et on s'est mis à élever des espèces. Alors la vache nous pose des problèmes. 1,3 milliard de vaches sur la Terre aujourd'hui. Donc il y a plus de biomasse de vaches que d'humains sur la Terre. Et ces vaches occupent des espaces importants et elles consomment bien sûr des végétaux avec des très mauvais rendements de transformation entre la masse végétale qu'elles avalent et la viande produite. Alors une de mes recommandations claires ce matin, c'est pas de devenir vegan, hein, je suis pas extrémiste, c'est de manger beaucoup moins de viande. Beaucoup moins. On a 100 kilos par français, il faut tomber à 20 kilos, c'est largement suffisant, 2 fois par semaine, et moins de poisson aussi. Et vous serez largement aussi beau. Alors, beaucoup plus intéressant que les espèces sont les écosystèmes. Je vais en prendre 3. Une goutte d'eau de mer, où que vous soyez sur la Terre, c'est la même. Tara Océan, on a fait un tour du monde entre 2009 et 2013. On ramène 400 sites séquencés. On ramène 600 000 séquences marines pas connues. Donc on a triplé le nombre d'espèces connues dans l'océan par cette manip-là. Avec, dans chaque goutte d'eau de mer, des centaines de milliers de microalgues, qu'on appelle des protistes, elles ont des noyaux, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est partout comme ça. Quand vous allez nager à la canoë, ben vous les avalez. Et vous êtes beau quand même, il y en a plein, on en a plein les cheveux. Hein. Vous voyez que l'humain est viscéralement lié à ceci. Et je vais vous le démontrer encore un petit peu plus. C'est quoi un sol? Tous les sols du monde étaient comme ça. L'agriculture moderne productiviste a tué la moitié des sols de la planète. On a un vrai combat. Ramener de la biodiversité dans les sols, des bactéries et bien sûr aussi des champignons. 3,5 tonnes de champignons par hectare, 2,5 tonnes de bactéries en sol. Les sols contiennent 2 fois plus d'espèces connues que dans l'océan. Ces sols, on les a massacrés. Il y a un énorme, ayez un petit peu un regard ému vers nos sols qui permettront une vraie agriculture, pas productiviste, mais tout à fait aussi performante. Et sans empoisonner les gens, bien entendu. Alors, toujours mes petits tardigrades, voyons mes petits chouchous, des vers de terre, des nématodes. Ça, c'est un sol. Troisième écosystème, c'est un tube digestif, un intestin de bébé humain à la naissance. Je suis beaucoup intéressé à ça parce que quand une femme porte son bébé, elle garde 9 mois en elle, il n'est pas en contact avec la biodiversité de la planète Terre. Il perçoit des émotions, des sons, des choses, mais il n'y a pas de bactéries de l'extérieur qui sont en contact avec lui. C'est le cordon ombilical qui alimente le bébé, sa maman le nourrit, le sang de la maman, et puis bien sûr aussi les éléments nutritionnels pour le bébé. Alors quel est le moment où vous avez tous, quand vous êtes nés, contacté la vie sur la Terre? Et bien ce moment précis de la rupture de la poche des os. Je suppose qu'il y a des mamans qui ont eu des bébés ici, vous savez ce que c'est que la rupture de la poche des os. À ce moment-là, des bactéries qui sont extérieures au corps de la maman, mais qui viennent près du bébé, vont le contaminer, ces bactéries, elles passent du tractus de la maman vers le bébé. Et un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore. 2 années. Nous avons autant de bactéries dans nous et sur nous que de cellules humaines. L'humain est totalement lié à cette biodiversité de la planète Terre, en fait. Vous voyez que on n'est pas à part, on est avec, on est dedans jusqu'au cou. Regardez ici, on a fait Tara Océan, on a séquencé l'océan. Regardez ici, en bleu, ce sont des gènes que des microalgues marines. En rouge, que de mon intestin bébé. Et en gris, on a un tiers de gènes qui sont communs avec les cellules de plantes de l'océan. Un tiers. Nous venons de là. On n'est pas à côté. Si vous acceptez ceci, ça va changer beaucoup de choses dans nos raisonnements. Ça veut dire que chaque fois qu'on agresse la nature, ben, on s'auto-agresse. C'est vraiment con hein, pour un truc qui s'est appelé Homo sapiens quand même. Hein. Chaque fois que vous agressez cette nature, vous vous agressez vous-même. On ne peut pas s'en passer. Quand je vois les techniciens actuellement technologues avec le transhumanisme, les réenchanteurs de risque qu'on évoquait tout à l'heure, ou les créationnistes, en nous disant on va tout changer parce que nous sommes différents. Ben non. Ben non, parce que ben, on a du sodium, du potassium et des chlorures dans notre sang, ben, on ne peut pas échapper à cela, en fait. Et juste pour vous achever, c'est quoi ça? Votre lit ce matin. Et que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche, mon truc. Hein. Dans chaque lit humain, chaque matin, quand vous vous réveillez, parce que vous avez dormi là, si vous restez sans le lit sans dormir dedans, ils s'en vont, hein, ils ne vont pas rester là. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Vos poils, vos cheveux, vos cellules de la peau qui se desquament. Entre 1 et 2 millions par lit. Je dis souvent en fait à mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec eux qu'avec votre copine finalement. Ou votre copain bien sûr. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas, quand on me dit on va y échapper. Regardez l'excès inverse, le drame que l'on vit aujourd'hui avec l'antibiorésistance et les chambres d'hôpital avec les maladies dites nosocomiales. Une bactérie dans une salle d'hôpital. Une banale, un pseudomonas, un staphylocoque mortel. Si jamais on ouvre un humain dans cette salle, il est résistant à tout. Et on avait un beau débat à l'École nationale d'administration avant-hier avec mes copains médecins sur le problème de la résistance aux antibiotiques. C'est un drame. De plein fouet, d'ici 40 ans, ils ne marcheront plus. Parce qu'on les a mal utilisés, surutilisés n'importe comment. Vous en bouffez avant d'aller voir le dentiste. Ce n'est pas possible, effectivement, ceci. Pardonnez pour des choses absolument utiles. Voilà. Je pense que je vous ai convaincu qu'on fait partie du système, mais je termine par trois images pour rassurer Françoise. Quand est-ce que ça a commencé à disjoncter le système? Domestication du feu. Il y a à peu près 1,5 million d'années en Afrique, des humains s'arrêtent et domestiquent le feu. Ça va tout changer. Pourquoi? Et pour moi, c'est la séparation entre l'homme, l'animal humain et l'humain humain, en fait. Hein. On est toujours animal, je vous l'ai démontré, mais quand est-ce qu'on bascule vers autre chose qu'un seul animal? On en parle ce matin. Ces gens-là, ils parlaient à l'époque. Eh bien, le feu, le soir, va être convivial. Vous vous racontez des histoires, ça va libérer la main et le cerveau, et l'humain va changer par rapport aux primates de l'époque. Le chimpanzé et l'humain se séparent après il y a 7 millions d'années. Alors, on n'est pas du tout descendant du chimpanzé actuel. Simplement, on a un ancêtre commun, 7-8 millions d'années, on avait des animaux qui ont donné les chimpanzés et les humains. Donc, vous voyez que le génome du chimpanzé, c'est plus de 98% exactement les mêmes bases que chez l'humain. On est super proches, hein. Mais nous ne sommes pas des chimpanzés, le chimpanzé n'est pas un humain. Donc là, ça a permis de durcir les épisodes de chasse et de guerre. Ça a permis surtout de sortir de l'Afrique. Tous les 100 000 ans, il y avait des vagues de chaleur. Il faisait moins 40 ici à Bordeaux à l'époque. Hein. Et bien sans le feu, ils n'auraient jamais pu quitter l'Afrique en fait. Hein. Ils vont sortir et ce feu, ils vont l'emmener avec eux en permanence. Et récemment, il y avait un colloque avec des femmes qui étaient gynécologues et psychanalystes. Il y en avait 800 dans la salle et on parlait de l'intranquillité. L'intranquillité de toutes les espèces vivantes, chaque matin quand ils se lèvent, bon, ils ne réfléchissent pas comme ça, on a une double question. Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Tous les jours, c'est comme ça. Alors l'humain va perdre ça à ce moment-là. Et son obsession, c'est de conserver ce feu, même dans des zones où il fait très humide, où il fait très froid. Et puis après, bien sûr, plus tard, on découvrira que cuire les animaux, c'est très bien. Quand vous récupérez un morceau de viande sur un cadavre de zèbre tué par un lion il y a 15 jours, après que les hyènes soient passées dessus et les vautours, vaut mieux cuire la viande. Vous avez moins de soucis quand même. Il y avait des mortalités gigantesques. Hein. Souvent, je dis aux paléontologues, enfin aux anthropologues, mais comment tu expliques que dans la vallée de Totavel, les premiers Français, ils ont 700 000 ans. Hein. Le plus ancien gisement en France, 700 000 à Totavel, ils sont envoyés à 100 000 ans. Comment ils ont vécu 600 000 ans dans une vallée des Corbières en ne faisant que chasser et cueillir, sans détruire la nature comme on le fait aujourd'hui. Et la réponse, elle est évidente. Ils sont 20, jamais plus que 20. Quelques femmes, quelques adultes, quelques hommes et quelques enfants. Et maintenant, je viens de vous dire qu'on était 7,6 milliards, évidemment. Néolithique, il y a 12 000 ans, L'humain s'arrête. Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés à ce moment-là et on s'arrête. Et on invente agriculture et élevage. Et tout va changer à ce moment-là. Il ne reste plus que Homo sapiens. Hein. Vous savez qu'il y a eu plusieurs espèces d'humains pendant longtemps. Hein. Pas très loin d'ici, Burgos, nord de l'Espagne, il y a un gisement qui s'appelle la Cima de los Huesos. Et là, vous avez des humains à 1,8 million. Il y a un endroit incroyable, il y a une caverne. On a retrouvé une vingtaine de crânes en très bon état, 1,6 million, 1,8 million, avec un biface, un outil au milieu des crânes. C'est complètement humain, ça. Aucun animal ne fait ça. Hein. Ces crânes ont été jetés là, et un biface qui n'a jamais servi. En microscopie électronique, on sait si un caillou que vous allez tailler a servi une fois, on le voit très très bien. Hein. Il n'a jamais servi. C'est rituel, c'est magique. Hein. On a mis ces humains dans ce trou, et on a jeté un outil qui n'a jamais servi à côté. Et puis la machine à vapeur que j'évoquais, donc là on est un peu avant la révolution. 45, ça va être pour moi le premier événement parce que l'humain, par sa technologie et sa science, crée un événement de l'ordre de grandeur d'une grande destruction naturelle non humaine. On tue 80 000 Japonais en même temps, au même moment, par l'invention effectivement de ces bombes. Et on recommence une semaine après à Nagasaki. Et là, deuxième intérêt de cette date, c'est le moment où explose la démographie. La guerre se termine, mondiale. Et là, on commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés. Allez voir vos grands-mères de l'époque, 12 enfants en France, 14, c'était pas rare, 10, 9, 8. C'est fini, ça, aujourd'hui, heureusement. Et ça revient au système, effectivement, faites des enfants et donnons à manger à tout le monde. Donc, faisons une agriculture performante, productiviste, et là, c'est là que la chimie a commencé et nous crée les problèmes actuels. Et ça amène Paul Crutzen, un prix Nobel hollandais, c'est l'homme qui a trouvé le trou dans la couche d'ozone. Il a le prix Nobel en 95, prix Nobel de chimie. Et dit en 2000, créons le terme d'anthropocène. Si vous venez à Paris, demain, je repars à Paris demain matin, parce que demain, au muséum, on a une journée de réflexion sur c'est quoi l'anthropocène, avec des philosophes, avec des biologistes, des écologues, avec un peu toutes sortes de populations. C'est la fraction de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur du système qui change, c'est l'humain. Avec ces animaux domestiques, vous avez vu. Hein. Alors voilà comment ça s'est passé, en fait. Voici la population humaine. Comment elle a évolué? Quand on s'arrête de bouger, 12 000 ans, 5 millions d'humains sur la Terre, 5 millions à peu près, on estime ça. On s'arrête de bouger, on fait des bébés, et on commence effectivement à inventer agriculture et élevage. On va enlever la forêt, on va cultiver. Je dis souvent, on a vu tout à l'heure, il y avait des humains sans agriculture. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Pour moi, c'est fondamental. C'est pour ça que je tiens à rendre le respect du peuple paysan. Par contre, il faut qu'ils arrêtent des conneries comme ils font aujourd'hui avec leurs pesticides. On peut, hein, j'y crois très fort. Et puis, regardez comment ça s'est passé. Il a fallu attendre des inventions qui ont changé l'humain. Et la démographie s'est envolée. Qu'est-ce qu'on a inventé? C'était ça au début. Pendant 2, 3 millions d'années, le seul outil ou arme que l'on ait, c'est ça, un biface, un morceau de caillou taillé. Depuis, on en trouve à 3 millions et demi d'années, au moment de Lucie, hein, chez les Homo habilis en Afrique. Et puis, 50 000 ans, on fait encore des beaux bifaces. On en a trouvé récemment à 12 000, ici, pas très loin d'ici. Très élaboré. On se les passe de père en fils, de famille en famille. C'est l'outil de chasse et de guerre, tout ce que vous voulez. Ça sert à tout. Et qu'est-ce qui va tout changer? Il y a à peu près 8-9 000 ans, l'arme de jet, ça va tout changer. C'est ça qui va faire l'humain aussi. Hein. Vous tuez à distance, soit une proie, soit un prédateur. Le propulseur, la lance ou l'arc et la flèche que je vous ai mis ici, ça change tout. Et souvent, quand les chasseurs m'énervent trop, je leur dis, voilà, écoutez, je vous file un biface comme ça, allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, sanglier, il a ses chances. Hein. C'est ça qui a tout changé. C'est tellement facile. Aujourd'hui, vous prenez ces gamins que je vois au Congo, ils ont 14 ans. Des kalachnikovs partout, ils m'ont tué tous mes éléphants et tous mes rhinocéros. Ils ont violé toutes les filles du village d'à côté. C'est ça la pseudo-puissance en fait de l'humain, et surtout du mal qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. L'arme de jet a tout changé. Et la poudre noire, c'est 1200, c'est récent, hein, par les Chinois en Chine. On sort la poudre noire de Chine et on invente les premiers canons, les arquebuses que vous connaissez, et ça va absolument tout changer. Et ça explique aussi la trajectoire ici de la population humaine. Puis après, ça va être les antibiotiques, les vaccins, les avions. Nos avions volent depuis 150 ans, les frères Wright. Nos oiseaux volent depuis 150 millions d'années. Et sans les oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Je finis, François, pour te rassurer. C'est ma dernière image. Quelles sont les plaies de la crise écologique d'aujourd'hui? Productivisme agricole, on peut changer. Ça peut très bien se résoudre. Il faut de la volonté politique et de l'organisation. On peut changer. L'eau, on peut arrêter de la gaspiller. On peut arrêter de la polluer. Ça aussi, on sait faire. Moi, je vous donne quand même du... Je ne suis pas catastrophiste du tout, hein, mais il faut changer. Il ne faut pas qu'on travaille comme aujourd'hui. La pêche. Pêcher, c'est très bien. Surpêcher, c'est stupide. Vous tuez la poule aux œufs d'or en permanence. Ça aussi, on peut changer. On connaît des outils, on sait comment faire. Ça fait 20 ans que la pêche mondiale ne débarque pas un kilo de plus de poissons. Et pourtant, on a des bateaux de plus en plus performants. Donc, ça coûte de plus en plus cher, puisqu'il faut de plus en plus de techniques pour accéder à la ressource, de ressources fossiles, par exemple, des sonars, qui valent les sonars de la marine de guerre. Hein. On les trouve, on les prend. Philippe Curie nous disait récemment à l'IRD, on a détruit en moins de 20 ans 90% de tous les grands poissons de l'océan. 90%. La forêt. La forêt, c'est le système du creuset. Vous vous rappelez ma biodiversité continentale tout à l'heure, hein. Ce sont les lieux de biodiversité. Elle part à la vitesse de la surface de l'Angleterre par année. Il y a un gros travail à faire. Je dis à chaque Africain, chaque fois que tu coupes un arbre, tu t'appauvris. Parce que c'est pas que les grosses multinationales qui déforestent, c'est pas vrai. 700 millions de femmes en Afrique, tous les jours, vont couper un petit morceau de bois pour chauffer de l'eau. C'est pas possible de continuer comme ça. Il y a des tas de techniques pour chauffer de l'eau qui ne sont pas d'aller brûler du bois et d'émettre des gaz à effet de serre. La biodiversité, on en a parlé. Vous avez compris que si elle s'en va, on partira avec, ça c'est clair de toute façon. La pollution, ça c'est le mal du siècle. Il y avait une image terrible dans la revue Nature la semaine dernière, d'un petit îlot du Pacifique où on n'était jamais allé. On n'a pas de trace d'un bateau qui avait débarqué là. Il est jonché de plastique, jonché de plastique. On a fait des plongées, nous, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les fonds à 200 mètres sont jonchés de saleté, de canettes de bière. On a trouvé une bouteille Coca-Cola au fond de la fosse de Mindanao des Philippines, qui est l'océan le plus profond du monde, 11 km sous le niveau de la mer. Moi, je me rappelle un truc qui m'a fait pleurer dans le sous-marin avec le Nautil au large de Galapagos, il y a une quinzaine d'années. On était par 3800 mètres de profondeur, on descendait un seau de plastique jaune qui flottait entre deux eaux. Vous prenez un coup, c'est pas possible. L'humain pollue des zones où il n'est pas. Les oies arctiques, les oiseaux aujourd'hui, sont bourrés de pesticides, pas les actuels, ceux qu'on mettait sur nos champs il y a 70 ans. Donc là, il y a un gros effort à faire. Et le seul où c'est trop tard, à mon avis, c'est le climat. Alors, je m'explique bien. On ne peut plus empêcher le climat de changer. C'est trop tard. Il va falloir commencer à réenlever le CO2 qu'on a mis. Par contre, il faut tout faire pour qu'on limite les dégâts. Donc voilà un petit peu mon introduction sur ce que je voulais vous dire. Après, j'ai d'autres images, si vous voulez, si on a le temps tout à l'heure. C'est comment on résout ces questions-là. Comment est-ce qu'on revient à une planète vivante? Comment on réharmonise la relation entre l'humain et la nature? Ça, c'est fondamental. Peut-être une dernière image, c'est montrer les... Je vais passer là-dessus. Je vais en passer une autre et puis je vais finir là-dessus. C'est nos rencontres avec les cosmonautes, justement.
Ah ben, je permets, il n'y a pas de souci. Vous aurez compris que quand même, cet humain tellement, tellement lié à la nature. J'espère que Gilles vous aura convaincu. Et puis, on aura un quart d'heure, du coup, pour poser des... que vous posiez des questions et puis qui rebondissent peut-être sur d'autres photos. Je pense que c'est très, très fort, cette philosophie. Vas-y, je t'en prie.
Voilà. Ça, c'est donc la conclusion des accords de Paris. Nous sommes à Paris, au Bourget, le 12 décembre 2015, et M. Fabius et M. Ban Ki-moon annoncent la réussite des accords de Paris. Accords politiques, accords diplomatiques, c'est vrai. Maintenant, on va voir sur le terrain. La COP 23 là, qui vient de s'achever à Bonn, c'est pas terrible. Hein. Donc, les gens ne mettent pas l'argent qu'ils ont promis. Même les pays qui ont dit qu'ils allaient faire n'ont pas fait, donc c'est compliqué. Hein. Et puis, on crée à ce moment-là l'Alliance solaire internationale, donc avec les Indiens, remplacer effectivement le charbon et le pétrole par des énergies renouvelables, c'est important. Et puis aux Nations Unies, nous sommes le 22 avril 2016, là nous décidons donc de ratifier les accords de Paris. Tous les pays qui étaient à Paris et au Bourget, 195 pays du monde, disent voilà, on s'engage à ratifier les accords de Paris. Et ça va être un joli événement parce que jamais on a ratifié un accord international aussi vite. Le 4 novembre de la même année, 4 novembre 2016, ça y est, on a atteint l'objectif. 55% des émissions de gaz à effet de serre, au moins 55 pays sur les 195, se sont engagés. Et là, au moment où je vous parle, je crois qu'on est à peu près à 160 ce matin-là, qui ont ratifié les accords de Paris. Maintenant, ça va se passer comment? Ça, c'est ma dernière. Nous sommes avec l'ISS. Donc, le 2 décembre 2015, du Bourget, on se logue avec l'ISS, avec nos spationautes qui sont dans l'espace. Et là, vous avez un Russe, un Américain. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous discutez sur l'avenir de la Terre depuis quelque temps, depuis une semaine, depuis 15 jours, là? Nous, on la voit, la Terre. Sa totalité, ce qu'on a redit avec Thomas Pesquet il y a un mois, on la voit la Terre dans sa totalité. Et qu'est-ce qu'on voit? Les forêts d'Indonésie qui brûlent? On ne peut même pas faire, disait Thomas Pesquet, on ne peut même pas faire des photos de la Chine, tellement il y a un nuage de pollution dessus. Les puits de pétrole dans le golfe du Mexique et l'Afrique en train de devenir un désert. Alors, dépêchez-vous.
Merci. Merci beaucoup, Gilles. Puisque c'était prévu et qu'on vous l'avait promis, je vais vous passer la parole. Est-ce que quelqu'un veut... Ah voilà, monsieur avait déjà rapidement une question à poser.
Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous remercie, monsieur le professeur, pour ce très brillant exposé. Je suis malheureusement un peu pessimiste pour une raison qui est assez simple, en fait. C'est que les personnes qui vont gérer la transition, parce que là, effectivement, on voit que tout est très urgent, qu'il va falloir faire quelque chose, que faire. Et les personnes à qui on va confier le pilotage de ce changement sont malheureusement issues de ceux qui ont tout foutu en l'air, c'est-à-dire la société industrielle productiviste dont nous souffrons actuellement. Le journal Le Monde, par exemple, est piloté et contrôlé par l'oligarchie mondialiste dont vous avez parlé. Donc, est-ce qu'effectivement, nous ne devrions pas nous inquiéter encore davantage de ce qui sera fait? C'est-à-dire que la remédiation, dans certains cas, on le dit en médecine, le remède est pire que le mal. Est-ce que dans la mesure où on va confier la remédiation aux laboratoires californiens, par exemple, que ce soit des laboratoires d'ingénierie sociale ou des laboratoires de cybernétique ou d'ingénierie sociale, est-ce que ça n'est pas inquiétant de confier justement la remédiation à ceux justement qui ont tout foutu en l'air?
Merci. Alors, ma réponse est que pourquoi confier ça à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait ce matin ici tous ensemble? Alors, pour revenir au pessimisme ou à l'optimisme, d'abord je suis nature optimiste, sinon je ne ferais pas ce boulot. Et puis j'ai plein de jeunes ici, je ne peux pas leur dire et je n'ai pas envie de leur dire que c'est foutu. Ce n'est pas ce qu'on dit les chercheurs ici. Par contre, il faut qu'on change. Et moi je crois, aujourd'hui, je ne crois plus au monde politique, ça c'est clair. Hein. J'ai voyagé partout, ils ne sont pas capables de prendre ça en compte. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que, regardez le film de Nicolas Hulot là, sur le Titanic il y a quelques années, qui a très mal marché, il est trop noir et trop pessimiste. Le discours doit être mesuré. Bien sûr qu'il y a une inquiétude. Mais ce n'est pas eux qui sont responsables de la situation actuelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment on mesure le discours et le débat? Et moi, je suis à Rio en 92 et en 2012, j'ai vu la différence. De plus en plus, la société civile prend de l'importance. Il faut arrêter de laisser justement le système être gouverné par des gens qui préparent un monde insoutenable. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Après, comment on vote? Bon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que la société civile réagisse. Le monde associatif. Les ONG, qu'est-ce qu'il nous faut finalement? La recherche très fondamentale, publique, pas privée. Les prix Nobel français ne sortent pas des écoles d'ingénieurs, ils sortent de la recherche universitaire, et l'école normale supérieure, c'est un bel exemple en France. Ensuite, il nous faut une recherche d'ingénieurs, bien sûr, puisque la technologie, alors, arrêtons de dire qu'elle va nous sauver tout le temps, c'est pas vrai, mais elle nous permet effectivement de faire beaucoup mieux, on vit effectivement plus longtemps, ça s'arrête, c'est en train de s'arrêter en ce moment. Nos performances augmentent en permanence, ça s'arrête en ce moment, on est vraiment à une époque intéressante. Hein. On a regardé les records du monde, ils sont tous attaqués. On a regardé le grandissement de l'humanité, vous êtes grand ici, c'est terminé. Hein, l'humain a gagné 15 cm en France en 120 ans, 35 ans d'âge, c'est fini. Les femmes françaises, en ce moment, sont plutôt en train de perdre l'espérance de vie. On va réduire l'écart entre les garçons et les filles. 84 chez les femmes, 70 chez les garçons, je vais en France. Et les pires villes plus vieux, c'est la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon. Il y a des pays encore, le Zimbabwe, c'est les 60. 46 ans, 46 ans, c'est l'âge moyen à la mort d'un clochard parisien. Vous voyez qu'on revient aux aspects sociaux que vous évoquez ici. Hein. Donc, ma réponse à cela, c'est que il ne faut pas qu'on laisse ces gens-là faire, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat que mène la société civile, à travers le monde associatif, le glyphosate, je suis désolé, là, ils l'ont permis en prenant uniquement le texte de Monsanto, et bien arrêtons d'acheter des produits traités au glyphosate. Il se passe des choses, vous avez entièrement raison, du style, un œuf de saumon norvégien, je prends un exemple que je voyais récemment, pondu par des saumons en Norvège, il prend l'avion, il s'en va au Chili, ça traverse la moitié de la Terre. Là, au Chili, il est mis dans une rivière, il grandit, il devient un petit poisson d'eau douce, qu'on va transférer en mer pour faire un poisson marin, et il est tué et fileté au Chili, parce que la manœuvre n'est pas chère. Les filets viennent à Boulogne, le plus grand centre de fumage de poissons est à Boulogne, en France. Il sera mangé par des Japonais. Est-ce que c'est soutenable, ça? Donc, vous voyez que c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on reprenne en permanence, dans nos vies de tous les jours. Donc, ma réponse à votre question, c'est que, un, il faut laisser... En fait, je vais suivre un petit peu Edgar Morin. Edgar Morin nous dit, en fait, et on l'a dit là, le probable est assez catastrophique, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait tout pour que ce probable-là ne se produise pas. Et ça, j'y crois, en fait, ça. Et des tas de cas dans l'humanité, en fait, le problème, ce n'est pas produit. 300 guerriers spartiates arrêtent l'armée perse de 10 000 hommes au Thermopyles. Voilà. Comment ils ont fait ça? Encore, ça se termine par une trahison de quelqu'un qui fera venir l'armée par derrière. À 300, ils arrêtent l'armée perse. Et voilà. Je pense que c'est des choses comme ça. Ce n'est pas prévisible. Et il faut que l'humain acquiert une conscience humanitaire, planétaire, parce que pour moi, la vraie innovation, ce n'est pas nous d'améliorer nos systèmes, hein, c'est d'améliorer la vie de tous les humains. J'y crois.
Ouais. Merci aussi pour cette intervention. Et moi, je reste assez sceptique aussi sur le fait que la mentalité des jeunes ou même des gens en général, elle est toujours dans la productivité, dans la consommation. Et c'est forcément quelque chose qui empêche le fait que notre Terre aille de mieux en mieux. Et comment on peut faire pour changer la mentalité de ces gens? Parce que moi, rien qu'à mon échelle, j'essaye d'en parler à mes proches, à mes amis, à mes camarades. Mais ils me regardent avec des grands yeux quand je leur dis bah, il faut qu'on arrête d'acheter des iPhones, qu'on arrête d'acheter des choses comme ça qui polluent.
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, l'autre jour, j'étais avec des jeunes, on parlait de Facebook. Mais Facebook, c'est un truc de vieux. Ils ont 30 ans, les mecs qui utilisent Facebook. Hein. C'est génial, j'adore ça. Hein. Écoutez les YouTubers quand ils parlent de ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Ben, si tu veux, c'est ce que tu fais toi, il faut que tout le monde le fasse, en fait. Et moi, j'y crois. Avec mes étudiants, on discute en permanence. Puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand je fais une conférence en Chine, la même que je vous ai fait ce matin-là, ou bien en Argentine, ou bien au Zimbabwe, j'ai les mêmes réactions. Les jeunes ont envie de changer. Ils ne sont pas comme nous. Ils savent qu'ils ne pourront pas vivre dans les mêmes conditions que nous. Et c'est vous qui allez changer le système, finalement. Mais la question, c'est de ne pas culpabiliser. Moi, je vois des chefs d'État africains, j'en ai vu beaucoup ces temps-ci, là, qui me disent « Ouais, mais c'est de votre faute si on doit s'adapter. C'est vous qui avez produit le CO2, c'est vous qui avez créé le changement climatique. » C'est vrai que l'effet sur le changement d'un type au Zimbabwe, c'est pas le même qu'un Américain de la Silicon Valley, ça c'est clair. Hein. J'ai regardé aussi une chose qui est terrible, c'est la relation entre la durée de vie et l'énergie utilisée. J'avais fait un calcul vraiment anticonformiste il y a quelques années, j'avais calculé l'énergie de Jeanne Calment pour vivre 122 ans, 4 mois et quelques jours. C'est gigantesque. On ne peut pas amener les 7 milliards d'humains à ce niveau-là. Donc il y a une vraie question, comme dit Morin, effectivement, d'humanité planétaire. Il faut qu'au moment où tu fais quelque chose, tu penses à ce qui se passe en ce moment en Éthiopie, où ils meurent de soif, hein, toute l'Afrique du Sud qui devient en ce moment, l'Afrique australe qui devient un désert. Donc je pense, c'est par la discussion, c'est par l'association, c'est par le bon sens qu'on peut changer. Et en fait, c'est pas de revenir. La sobriété, oui, j'y crois absolument, effectivement. On peut être largement aussi heureux. J'ai 3 petites filles. Je leur dis, c'est pas normal de manger tous les jours des avocats, de manger tous les jours des bananes et des tomates. Donc là, il y a une vraie. C'est un problème d'éducation. Il faut reprendre toute l'éducation à la base. Je suis entièrement d'accord. Et je dis pas que c'est facile, hein. Mais de toute façon, si on le fait pas, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je dis pas que l'humain va disparaître. Mais on va beaucoup souffrir.
Juste, j'ai vu des sourcils se froncer. Vous avez compris pourquoi c'est pas normal de manger des tomates toute l'année ou... Je crois que vous n'avez pas complètement fait le rapprochement. Alors, tu peux expliquer, Gilles. Pourquoi ça pose un problème de manger des cerises au mois de janvier?
Le vivant, il est saisonnier. Et on vit à 45 degrés nord. Bordeaux, c'est magique. On est vraiment au milieu de l'équateur et puis le pôle nord. Hein. Il y a des saisons. Hein. Il y a des jours longs et des jours courts. Et les vivants, depuis que la vie tourne, c'est adapté à ces jours longs et ces jours courts. Moi, j'adore faire une conférence le jour de l'équinoxe à mes étudiants à Paris. C'est le jour de l'équinoxe, ils ne savent pas. On est le jour de l'équinoxe, il se passe. Toutes vos hormones changent aujourd'hui. On passe d'une alternance jour court, nuit longue, à une alternance qui va être nuit courte et jour long. Et bien, ça veut dire que tout le vivant est basé là-dessus. Donc, faire des tomates, et bien, elles ont bon goût à la saison des tomates. Sinon, elles sont franchement dégueulasses à manger.
Et les cerises, il faut les faire venir du Chili, et ça coûte très cher en énergie.
Les poires venaient d'Afrique du Sud récemment, ici à Bordeaux. Arrêtez, manger des poires quand c'est la saison des poires. Et du raisin aussi. On a le plaisir de faire ça. Petit garçon, j'avais des oranges que à Noël. Et regardez, je ne suis pas si moche que ça, finalement, en ne bouffant pas d'oranges toute l'année. Hein. Donc, c'est ça qui est très important à expliquer. Et ça, par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'on rappelle aux enfants la saisonnalité. Alors, comment vous pouvez agir, vous, tous les jours? Ben, déjà, à travers ce que vous achetez. Alors, l'histoire de l'iPhone, elle est géniale, parce que je voyais dans le journal l'autre jour des gamins qui dorment deux nuits sur un trottoir à Paris pour avoir le dernier modèle du truc. Alors, ça, comment ils ont été éduqués, ces gamins, quoi, hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est pas ça l'important. Puis on me dit toujours, il faut sauver ce qui sert à quelque chose, mais ça ne tient pas debout. Réfléchissez au nombre de choses que vous faites tous les jours. Qui servent absolument à rien, mais qui vous donnent du plaisir et du bonheur. Et ça, on ne le quantifie pas du tout. Et pourquoi on continue à massacrer, selon ce que vous disiez, c'est parce qu'on ne tient jamais compte des externalités. Si je comptais le coût aujourd'hui social et environnemental de la pollution agricole, par exemple, on l'aurait arrêté depuis longtemps, en fait. Et tous ces gens-là que vous évoquiez, l'économie change tout doucement. Hein. Il y avait Costanza, qui est un des grands économistes américains, qui disait, celui qui croit aujourd'hui qu'on va continuer à avoir une croissance infinie dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. Je dirais conventionnel. Quelques-uns commencent à faire autre chose. Mais c'est vrai que le challenge est très important.
Bonjour,
Merci pour votre intervention tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que le système scolaire était défaillant en France.
Oui.
Et moi, personnellement, avec votre introduction, je me coucherai moins bête ce soir. Et, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faudrait apprendre en premier aux jeunes?
Bah oui.
C'est la base quand même du vivant de tout, plutôt que d'apprendre, je sais pas, après...
Tu sais, maintenant, on a un vrai combat au muséum. En ce moment, le système français veut détruire les SVT au lycée. Hein. On a un vrai combat. On va me faire un manifeste, là. Je vais me faire aider même par le monde de l'entreprise privée, parce qu'il nous faut d'autres interlocuteurs que le seul monde de la science, de la recherche ou de l'éducation. Un énarque n'a jamais fait un gramme d'écologie dans sa vie. Il ne sait pas qu'il est rempli de bactéries. Et il nous dirige, effectivement. Les polytechniciens, c'est un petit peu mieux, pas beaucoup mieux. Donc, c'est vrai. Où va l'élite intellectuelle du système aujourd'hui? À part la médecine, on est obligé de passer par l'université. On n'a pas l'élite intellectuelle dans les facultés des sciences en France, hein, ou de lettres. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai changement à faire à ce niveau-là aussi. C'est le silo que j'accuse, en fait. Hein. Je veux dire qu'il faut être bon en physique, en mathématiques, en chimie, en anglais, mais il faut de la transversalité. Ce que j'explique là, ce n'est résolvable que par des choses transversales. Donc, on a vu que l'éducation française, qui était une des meilleures au monde il y a 30 ans, elle a un niveau dramatique aujourd'hui. Hein. Donc là, il y a un gros changement à faire. C'est une vieille grand-mère, l'éducation nationale en France, qui n'est pas facile à changer comme ça. Mais avec le monde enseignant, on peut le faire. Des enseignants qui le font, ils font des choses transversales. On va emmener des gamins sur le terrain, ils font de la géologie, de la biologie, de l'histoire, mêler le culturel au naturel. Tout ça, c'est très important. Mais il faut que vous soyez formés, parce que moi, quand j'enseigne à mes étudiants, moi, je ne fais pas de cours en L1, L2, L3, je commence en master, j'ai quelquefois des L3. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas préparés à ça. Mais quand on commence à discuter avec eux, ça leur plaît énormément. Hein. Et même qu'on ait quelques cours de droit et d'économie dans une faculté des sciences ou de médecine, c'est très très bien. Mais donc, il y a l'inertie, mais ça vient, ça tente de changer quand même.
Encore une question ?
Alors moi, c'est plutôt un petit message pour les lycéens parce que en fait, j'accompagne des lycéens en cours particulier, par exemple. Et du coup, j'ai régulièrement sous les yeux donc, les livres qu'ils utilisent. Et la transversalité, elle est dedans. Elle est dans les livres de SVT, elle est dans les livres de physique chimie.
C'est très récent.
Elle est dans les autres matières que je ne fais pas avec eux. Donc, je vous invite à lire vos livres, tout simplement, à tourner les pages et à regarder les chapitres d'introduction, à regarder les pages sur la culture, sur l'histoire des sciences qui sont dans vos livres, en fait. Vous avez, en fait, l'information dans vos livres. N'attendez pas les conférences pour obtenir cette information. Elle est déjà dedans.
Très bien.
Posez des questions à vos profs. Ils attendent que ça, en fait.
Très bien, très bien. T'as un message d'espoir, c'est bien. Oui, ici.
Bonjour. Existe-t-il des modèles scientifiques qui prédisent l'extinction de l'espèce humaine et quel serait l'impact sur la biodiversité et la biomasse si on était amené à s'éteindre, tout simplement.
On s'est beaucoup posé la question, vous imaginez bien. Alors, il y a eu des films, hein, le jour d'après. Il y a eu récemment un travail qui a été fait par des Américains où ils montraient comment la biodiversité changerait après un jour après la fin des humains, une semaine, un mois, un an, 10 ans. Donc, c'est intellectuel, en fait. Hein. Alors, d'abord, ça ne se passera pas comme ça. Encore une fois, moi, vous avez vu, je ne parle pas beaucoup d'extinction parce que ça prend du temps. Il y a eu des grandes crises d'extinction dans le passé. Au muséum, on est spécialisé là-dessus. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la sortie de l'océan. Comment la vie est sortie de l'océan, parler sur les continents. Il y a 251 millions d'années, 96% des espèces vivantes, marines et continentales, disparaissent. Alors, c'est toujours les mêmes raisons. Température qui augmente violemment, volcanisme extrêmement intense, tsunami, impact des météorites, des questions d'émissions de gaz à effet de serre de façon fantastique, l'océan, le pH, l'acidification qui change aussi. Tout ça, c'est les mêmes choses. Hein. La question, c'est combien de temps après il faut pour revenir à un système plus ou moins ressemblant à ce qu'il y avait avant. Donc pour revenir à votre question, non, moi je ne prévois pas la disparition de l'espèce humaine. Ça prendra un certain temps. Par exemple, moi qui suis un marin, aujourd'hui dire telle espèce est disparue, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il ne reste pas d'individus au large des Galapagos ou dans une fosse au Mexique, par exemple. Aujourd'hui, je peux vous dire que la seule espèce marine que je sais disparue en Europe, c'est un petit coquillage, une porcelaine, s'appelait Corymbe batava, grande comme ça, et qui vivait uniquement en Hollande, sur des zones aujourd'hui où il y a des vaches dans des champs. Hein, on a détruit son habitat. Mais je peux vous citer sur 4 siècles 20 espèces marines qui ont disparu. Alors, par contre, le drame est là au niveau de l'effondrement du nombre d'individus dans les populations, qui à terme peuvent amener effectivement des extinctions. Vous avez vu récemment, on a perdu la moitié des lions en 40 ans. Le guépard, on a des images de Maharaja, qui ça c'est le guépard vers 1902 en Inde. Le guépard était africain et asiatique. Il reste aujourd'hui 70 guépards en Asie, tous en Iran, en train de disparaître. Parce qu'ils ont acheté des chiens monstrueux en Turquie qui bouffent les portées des mamans guépards. Le guépard va partir. On est allé voir comment on peut les sauver, c'est une bonne question. On est allé, on a regardé génétiquement lesquels étaient les plus proches. Ce sont les guépards du Mozambique. Donc on est allé chercher du sperme sur les guépards du Mozambique sauvage et on essaie d'inséminer des femelles iraniennes avec les femelles de guépards avec le sperme des guépards de Mozambique. Ils sont 70. Qu'est-ce qui va rester comme base? Donc c'est là. Alors, si l'humain disparaît, ça changera beaucoup de choses, mais ça va pas sûr de jour au lendemain. L'humain, en plus, c'est quand même une espèce particulière, parce que c'est la seule qui peut intervenir. L'humain a créé tout ça, mais l'humain peut très bien tout faire pour restaurer le système. J'espère qu'il sera assez sage, comme dit Morin. Le problème est catastrophique, mais est-ce qu'on peut empêcher ce problème de se produire? C'est la vraie question, c'est ce qu'on fait ce matin, ce que vous faites dans le monde associatif de tous les jours. Être pessimiste, comme disait... Qui est-ce qui avait dit ça? En fait, c'est trop tard pour être pessimiste. C'est vrai, je pense que c'est trop tard pour être pessimiste. Il fallait commencer avant. Maintenant, ben, on se retrousse les manches et puis on change. Et on essaie de souffrir le moins possible dans le futur. Donc, mais c'est vrai que si l'humain partait, mais ça prendrait un certain temps, changerait beaucoup de choses. Hein. Alors après, il y a plein de théories. Est-ce que c'est la planète des singes? Ils sont en train de partir, les singes. Presque tous. Aujourd'hui, les rhinocéros, j'étais en Zambie. Il y a 20 ans, il y avait 2000 rhinocéros en Zambie. Zéro, il ne reste pas un aujourd'hui. Le produit naturel le plus cher au monde aujourd'hui, c'est le kilo de corne de rhinocéros. Plus que le platine, plus que la cocaïne, c'est la corne de rhino. Pour des vertus débiles. C'est de la kératine. Je dis au type, rongez-vous les ongles et vous verrez si ça marche avec votre copine. Hein. C'est ça, Homo sapiens, en fait. Hein. Donc, c'est des vraies questions qui sont quand même... Mais... Donc, oui, ça, on a fait des calculs. Alors, ça changerait beaucoup de choses. Bah, le métro de New York serait rapidement sous l'eau, puisque c'est des pompes humaines qui alimentent le fait qu'il n'est pas encore sous l'eau. Le métro de New York est sous l'eau en permanence. Donc, c'est des pompes qui font qu'il n'est pas encore sous l'eau. Donc, il se passerait plein d'événements comme ça. Donc, on verrait comment, effectivement, le vivant se réapproprie des systèmes. Il restera là. Les gorilles, les orang-outans, ils vont partir avec nous. Mais par contre, les bactéries, elles sont toujours là. Hein. Elles étaient là avant nous, elles seront là avec nous, elles seront là après nous. Mais tardigrades, bon, écoutez, ils vont attendre quelques temps que ça se passe. Et puis, explosion nucléaire mondiale. Quelles sont aujourd'hui les raisons d'imaginer une disparition des humains? C'était effectivement une guerre nucléaire totale, comme on l'avait imaginé au moment de la guerre froide dans les années 80. Alors, on dit qu'il y a beaucoup moins d'engins nucléaires. Oui! Il y en avait 75 000 en 85, on en a 15 000 aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus puissants que les précédents. On peut détruire la Terre. Entre les fous qui dans certains pays, on peut imaginer effectivement que les perturbateurs endocriniens qu'on évoquait tout à l'heure. On me dit oui, aux États-Unis, il y en a tellement de ces molécules qui viennent des pesticides sur les champs que peut-être que le cerveau humain va changer et qu'on va être de plus en plus stupide. Le QI des Américains va baisser. À mon avis, ils ont commencé il y a 40 ans quand je vois comment ils ont voté récemment. Voilà, c'est tout ça.
Bon, écoutez, je crois qu'on a un petit peu dépassé notre temps, donc on va remercier encore une fois Gilles Boeuf d'être venu ce matin.
Les leçons du Collège de France qui sont sur les sites, faites Collège de France Gilles Boeuf, et puis il y a plein de conférences diverses et variées, les conférences cette semaine qui sont déroulées ici, vous les retrouvez facilement, et puis il y a des ouvrages qui ont été écrits. On a fait deux livres récemment, l'un qui s'appelle « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» Et il y a deux mois, l'homme peut-il accepter ses limites? Voilà, des bonnes questions.
Bonne journée.